Le grand rendez-vous de l'épargne. Une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Julien Bouissou.
Et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Patrimoine. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro du grand rendez-vous de l'épargne. Aujourd'hui, comme chaque mois, nous allons décrypter l'économie tous ensemble autour de ce plateau avec nos invités, nos grands témoins et nos experts évidemment. Pour ce faire, j'ai la chance d'être accompagnée par Julien Bouissou. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Comment allez-vous ?
Ça va bien.
Rédacteur en chef adjoint désormais en charge des rubriques patrimoine et macroéconomie.
Exactement.
Chez Capital. Bravo d'ailleurs.
Petite promotion.
Oui, c'est ça, bravo. Hein.
Ça arrive.
Fabrice m'a demandé de vous féliciter, alors je le fais.
Ah, voilà. Merci Fabrice.
Bon, pour ce numéro, nous allons parler du très populaire PER, hein, le plan épargne retraite, qui n'a que 2 ans, qui est très populaire, qui séduit déjà 4 millions de souscripteurs. Un succès, mais pourtant c'est un produit avec trop de frais, selon notre ministre de l'économie Bruno Le Maire.
Exactement, oui, c'est Bruno Le Maire qui a exigé de la part des assureurs une transparence. En tout cas, on est à cette étape-là de transparence des frais du PER. Alors, on va parler évidemment des atouts de ce produit et aussi de ce débat sur les frais. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, deux spécialistes et deux promoteurs de PER. Stéphane Cohen, tout d'abord, vous êtes président d'Alta Profit, un courtier en ligne. Et donc, vous avez un contrat PER hein, pour l'instant dans la gamme.
Absolument, on a un contrat PER avec un partenaire qui est Swiss Life.
Voilà, on en parlera un peu plus dans le détail. Et aussi avec nous Xavier Prin, vous êtes directeur marketing de Boursorama, vous avez aussi un PER au nom facile à retenir, je pense que ça a été imaginé, bien imaginé pour le matelas, c'est ça ?
C'est ça, bonjour Julien.
Bonjour.
Oui, qu'on a lancé en septembre dernier.
Voilà. Et on retrouvera évidemment le coup de cœur et coup de gueule de Pierre Sabatier, président fondateur du cabinet Prime View. Et puis en dernière partie d'émission, la séquence préférée, votre séquence préférée, ça vous concerne, durant laquelle nos experts répondront à vos questions. C'est parti pour le grand rendez-vous de l'épargne, spécial PER.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
On accueille donc deux invités pour parler du PER et de ses frais, justement.
Oui, alors on va peut-être commencer par faire un petit bilan hein, du PER, donc un succès. Hein. Alors 4 millions d'enveloppes, mais je crois que c'est plutôt 3 millions d'enveloppes individuelles hein, quand on regarde vraiment le PER souscrit personnellement par les épargnants. Alors Stéphane, du côté d'Alta Profit, quel petit bilan sur votre PER en termes de souscription, de volume placé ?
Alors, le PER que nous avons lancé donc en avril de 2020 a maintenant 2 ans. Le PER, c'est un vrai succès commercial, mais il répondait aussi à une attente des Français en termes de dispositifs pour se préparer un revenu complémentaire au moment de la retraite, parce qu'on a un vrai sujet de financement de revenus au moment de la retraite. Et la loi Pacte a vraiment répondu à cette attente des Français avec un produit qui est simple, qui avait ce souci d'harmoniser tous les dispositifs qui pouvaient exister en France, qui avait un souci de transparence, et on va y revenir, sur les frais, sur le mode de fonctionnement, sur les différentes options possibles. Et il avait également, qui pour moi est un avantage extraordinaire et qu'on n'avait pas dans les autres produits retraite, c'est cette sortie en capital
voilà,
qui était fortement attendue.
C'était un gros frein jusqu'ici, voilà. C'était quasiment
exactement.
Que de la rente.
Et les Français détestent la rente immédiate ou la rente viagère. Aliéner leur capital, ils détestent ça. Et donc là, c'était une vraie réponse à une attente, cette sortie en capital. Et enfin, ce qui fait le succès du PER, c'est tout le dispositif fiscal qui l'accompagne, c'est-à-dire la possibilité de déduire les primes engagées sur le PER de son dispositif fiscal.
Et comment font les épargnants chez vous, du coup ? C'est un effort d'épargne régulier ou c'est un produit de fin d'année où on se dit justement, tiens, allez, je vais effacer un peu de mes revenus ?
Plusieurs choses. Avec ce PER, on a vu effectivement que l'âge du souscripteur a baissé. Avant, on commençait à s'intéresser s'intéresser à sa retraite à 55 ans. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on voit qu'on est plutôt à 40, 45 ans, donc on a gagné en âge. Et ensuite, effectivement, la majorité des pairs qui sont ouverts avec un programme de versement libre programmé.
Voilà.
Et en fait, c'est ça qui est aussi intéressant avec le pair, c'est qu'il apporte cette souplesse et on peut alimenter son contrat comme on veut, augmenter, réduire. Aujourd'hui, sur le marché, on peut verser 50 euros sur son pair tous les mois, augmenter à un moment donné quand on a une capacité d'épargne plus importante ou la réduire quand on voit cette capacité diminuer. Donc un vrai succès, mais parce qu'aussi le produit a beaucoup d'atouts.
D'accord. Alors et du côté de Boursorama, M. Prin, donc vous avez voulu faire quelque chose de très simple, je crois, très grand public comme produit d'épargne retraite.
Oui, nous on est arrivé un petit peu plus tard, on est arrivé en septembre de l'année dernière sur le produit parce qu'on a beaucoup réfléchi à un produit qui pouvait correspondre aux attentes de nos clients et notamment les plus jeunes d'entre eux. Boursorama, on a recruté 800 000 nouveaux clients l'année dernière et près de 60% ont moins de 30 ans. Donc c'est ce type d'épargnant-là recherche des produits hyper simples. Ils n'ont pas forcément ni le temps ni la compétence de s'en occuper, donc ils aiment bien déléguer la gestion de ce produit-là à un tiers. Ils cherchent des produits pas chers. Ils ont pour eux l'horizon d'investissement, donc ils sont prêts à prendre un peu plus de risques peut-être que des épargnants plus âgés, et ils ont pris pleinement conscience que, au niveau de la retraite, comme on le disait tout à l'heure, Stéphane, vous en parliez, il va falloir qu'ils s'occupent un peu de leur retraite tout seuls, parce que on connaît l'environnement, on voit que les produits à capital garanti ne sont plus rémunérateurs, donc il faut prendre un peu de risque, et donc ils s'en occupent eux-mêmes, et pour qu'ils soient complètement autonomes, il faut leur apporter des solutions packagées, hyper simples à comprendre, et encore une fois, pas chères. Donc ça a pris un petit peu de temps d'aligner les intérêts de tout le monde autour de ce concept-là, un peu disruptif, mais on a réussi à lancer Matelas, donc en septembre, avec une promesse hyper simple et transparente, avec une promesse de frais inférieur à 1%, tout compris. Donc le 1%, c'est un maximum. Quand vous prenez un profil prudent et que vous êtes jeune, c'est plutôt du 0,85. Donc avec une souscription full online, un investissement 100% ISR, vous savez que c'est aussi important.
Ça fait partie des critères maintenant.
Pour les plus jeunes, d'entre nous. Enfin, les jeunes épargnants. Donc voilà, le prix, l'ISR, le full online, et donc le succès est au rendez-vous, effectivement. On est arrivé dans une séquence qui était pas mal aussi, parce que effectivement, on parlait déjà en septembre dernier beaucoup des frais. Et donc cette promesse hyper simple et transparente du moins de 1% a résonné, je pense. Bah,
alors vous, la particularité, c'est que l'épargnant, peut pas gérer librement. Hein. On arrive et on choisit son profil.
Non, mais ça contribue à cette simplicité. Voilà. C'est-à-dire que vous arrivez chez Boursorama, vous vous dites, je veux souscrire un plan d'épargne retraite. Donc là, c'est simple, vous n'avez que trois choix. Vous choisissez votre profil, prudent, équilibré ou dynamique.
Et en fonction de l'âge,
Souscrivez à partir de 150 euros à l'adhésion, 50 euros pour les versements libres programmés. Pour répondre à votre question, peut-être, côté Boursorama, il y en a plus d'un tiers qui mettent en place des versements libres programmés.
Ouais.
On pense que c'est un très bon conseil à donner aux épargnants, parce que ça permet de lisser les effets de marché, de se constituer une épargne sur le long terme. Et quand on fait des tests, qu'on rétropédale, qu'on regarde historiquement, en général, ça se passe plutôt bien. Donc beaucoup le font, et tant mieux, mais c'est vrai que le concept est hyper simple. Il n'y a pas de gestion libre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider de faire votre propre allocation, etc. Non, vous choisissez votre profil, vous donnez finalement à l'allocateur, qui en l'occurrence est BlackRock, le leader mondial de la gestion d'actifs, qui va gérer votre argent pour vous, sans frais supplémentaires, et qui va investir 100% de votre épargne dans ce qu'on appelle des ETF, donc des produits très faiblement chargés en frais, qui encore une fois sont labellisés 100% ISR. Donc c'est assez simple à comprendre.
En fait, c'est vraiment pour des gens qui n'ont pas le temps de s'en occuper, qui vous font confiance et qui laissent travailler l'argent.
Des experts.
Des experts, exactement.
Alors là, il y a un peu un crash test, justement, de l'investissement en pair et se dire, tiens, j'ai du temps pour aller en bourse. C'est le conflit ukrainien qui a fait quand même dévisser les marchés. Qu'est-ce que ça a pu générer comme réaction de vos épargnants sur les pairs? Parce que chez vous, on peut être en gestion libre. on peut voilà, faire son propre choix. Alors, est-ce qu'il y a eu des arbitrages ?
Alors, chez Alta Profit, on a effectivement un pair qui propose du pilotage, comme on vient de l'évoquer, prudent, équilibré, dynamique. Mmh. Mais on propose également de la gestion libre, où on peut, si on le souhaite, se mettre à un moment donné sur du capital garanti, 100% fonds d'euros, où on souhaite investir sur de l'immobilier, où on souhaite investir sur des actions. Parce que ce pair, chez Alta Profit, a la particularité de proposer l'accès en direct à des titres très vifs. Donc, c'est des actions du CAC 40, SBF 120 et Eurostock 50. Donc, un petit peu plus, effectivement, ouvert en termes d'offres. Après, pour répondre à votre question, quand on part sur un plan d'épargne retraite, on est là sur une épargne longue. Mmh. Donc, on part sur un programme à 15 ans, 20 ans et effectivement sur une durée comme ça aussi longue, eh bien il peut y avoir des mouvements de marché comme on le vit actuellement, comme on l'a vécu également il y a 2 ans. C'est vrai que l'année 2021 a été une année exceptionnelle sur les marchés, mais en tout cas on aura sur une épargne longue, on aura plusieurs années comme ça avec des fluctuations. L'intérêt du plan épargne-retraite, et c'est ce qui fait aussi son atout et sa force, c'est cette capacité et cette souplesse à l'alimenter comme on le souhaite. Et en alimentant tous les mois son plan épargne-retraite, eh bien on va acheter des valeurs qui ont baissé à un moment donné et qui remontent.
Donc là, c'est peut-être un bon point d'entrée.
Et c'est voilà. Et aujourd'hui, c'est effectivement un très bon market timing.
Mais pas de mouvement quand même où on se dit, le perdant se dit, tiens, je vais aller plutôt sur le fonds euro, puisqu'il y a cette possibilité chez vous.
On peut le faire. Donc il y a effectivement des assurés, enfin des épargnants, qui préfèrent effectivement, dès les premiers sons du canon, se mettre sur le fond. Ils ont la possibilité de le faire.
Et il y en a beaucoup qui font ça, justement ?
Non, ce n'est pas la majorité. Pas sur du plan épargne-retraite. Parce que, justement, on est dans...
horizon.
Parce qu'en fait, c'est toujours le même sujet. Effectivement, on peut se mettre à l'abri, en quelque sorte, sur du fonds en euros. Mais quand est-ce qu'on revient sur les marchés ? Tandis qu'en... quand on se pose, et quand on a cette charge mentale et qu'on se pose toutes ces questions, nous, ce que l'on dit, il vaut mieux effectivement déléguer la gestion à un professionnel. Et là, il y a des solutions dans le pair Alta Profit. Il y a un gérant qui va gérer en gestion accompagnée. Par contre, on se rend compte que peu, effectivement, d'épargnants se sont positionnés sur le fonds en euros dans le cadre du pair et se disent effectivement, au contraire, je vais investir tous les mois et je vais lisser hausse comme à la baisse les mouvements de marché.
D'accord. Et du côté de Boursorama, il y a eu... Alors là, c'est les gérants qui pilotent l'allocation. Comment ça a pu se passer avec l'éclatement du conflit ukrainien ?
Ouais, je touche du bois, plutôt pas mal pour le moment. Mais après, comme on vient de le dire, dans le plan d'épargne retraite, il y a le mot retraite. Et du coup, enfin, tout part de là, c'est con à dire, mais l'horizon d'investissement est très lointain.
Surtout pour les jeunes, c'est
toujours
encore
pour les jeunes. Et comme l'a dit Stéphane, le souscripteur moyen, il a une quarantaine d'années, donc il a l'horizon pour lui. Donc faut être voilà, on n'investit pas pour demain. Le plan d'épargne retraite a plein d'avantages. Il a peut-être un inconvénient, c'est que les conditions de sortie ne sont pas non plus hyper souples, etc. À part la résidence principale, c'est plutôt des événements malheureux. Donc, on investit sur ce plan-là vraiment pour la retraite. Donc, c'est sur du très long terme. C'est d'ailleurs ce qui a conduit, nous, notre choix de prendre, dans 100% des cas, un allocateur qui gérera votre argent sur longue période, qui investira quand des ETF, qui, sans être trop techniques, qui sont des produits... des dérivés d'indices, si vous voulez, que ce n'est pas des gérants qui pilotent, qui achètent telle ou telle valeur en fonction de critères fondamentaux de la valeur. Ça suit plutôt l'évolution
des
marchés.
C'est passif, il n'y a pas de conviction.
Ce qui fait du coup que c'est moins cher, mais on estime que sur un investissement très long terme, ça vaut justement le coup d'avoir cette gestion plutôt passive, parce qu'on regarde à très long terme. C'est toute la mécanique de construction de matelas. Et donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, nous, on est plutôt en phase de très forte croissance, mais on arrive, ça fait quelques mois qu'on est là. les résultats sont trois fois supérieurs à ce qu'on attendait, je pense pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et je pense que les clients tiennent la pause, comme on dit aujourd'hui, les souscriptions continuent sur un bon rythme.
Et vous n'avez pas de demande de vos clients d'être rassurés, qu'ils vous écrivent?
Non, et non plus, je parlais des trois profils, vous pouvez changer quand vous voulez.
Oui, vous pouvez éventuellement changer de profil.
On ne voit pas tiens, j'avais pris un dynamique, je vais sur un prudent. Non, c'est, on n'a pas ce mouvement-là pour D'accord. l'instant sur ce produit-là. Donc,
les vertus de ce produit à horizon long.
Ouais. Ouais. Et dans ces solutions de pair, il y a quand même une promesse que l'on fait aux clients, c'est une promesse de création de performance sur la durée, pour avoir le capital le plus important possible en fonction de sa capacité d'épargne au moment de la liquidation des droits à la retraite. Et sur les véhicules qu'on évoque, que ce soit donc ces produits qu'on appelle des ETF peu chargés, etc., et c'est de l'indiciel. Donc c'est très lisible sur les actions internationales. C'est des indices qui sont publiés tous les jours. Voilà, il y a une lisibilité, ça c'est extrêmement important. Et l'épargnant voit la création de valeur sur son contrat. Et encore une fois, c'est extrêmement, le comportement des épargnants est extrêmement différent avec le plan épargne-retraite qu'avec l'assurance-vie. Parce que le plan épargne-retraite, encore une fois, il y a cet horizon de placement long. Il se dit, bon, ben, aujourd'hui, effectivement, ça a un peu baissé fin février.
Il y a un but, en fait.
Les 15 premiers jours de mars 2022, mais je suis avec un horizon de X années devant moi. Donc, voilà. Et encore une fois, le conseil qu'on pourrait donner, c'est plus on est jeune, plus on a du temps devant soi, plus, et quel que soit le montant qu'on investit tous les mois, plus il faut se mettre sur des choses un petit peu offensives.
Même si on a, très peu de versements.
Même si on a 50, le minimum 50 euros par mois, ça ne fait rien. Ça permet effectivement sur la durée, parce que là, toutes les études le montrent, sur la durée, ça permet de créer de la valeur beaucoup plus que sur un fonds en euros. Et c'est pour ça que le pair Alta Profit, on a effectivement ces véhicules qui sont des véhicules actions également et qui permettent de créer cette valeur. Et autrement, il y a aussi des véhicules immobiliers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les périodes telles que nous la vivons, ça intéresse aussi un certain nombre d'épargnants de pouvoir investir sur le marché immobilier, même pour se préparer une retraite. Parce qu'aujourd'hui, une SCI ou une SCPI, c'est du 4% net. Donc ça a aussi ses atouts.
La retraite, justement, c'est important de la préparer. On en parle beaucoup. On va en reparler. Là, on en parle un peu moins avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. Mais on va en reparler à l'approche des présidentielles, j'espère en tout cas. Il existe un comparateur, retraite.com. Vous avez été en reportage, Julien. Oui. Vous avez interviewé son fondateur, donc le fondateur de retraite.com, qui s'appelle Ludovic Erschlikowitz. On écoute.
Le grand rendez-vous de l'épargne. Le reportage.
Pourquoi Bruno Le Maire a-t-il exigé la transparence sur les frais du PER ?
Alors le PER, qui est un produit qui a été initié sous Bruno Le Maire avec la loi Pacte en 2019, est un produit vraiment dédié à la retraite. Avant, on avait pléthore de plusieurs solutions autour de la retraite, le PERP, le Madelin, le PERCO, l'article 83, etc. Les Français s'y perdaient un petit peu. Aujourd'hui, on a un produit, c'est le PER, avec plusieurs catégories, mais ça reste un PER. Et c'est une vraie réussite, puisqu'on a eu un peu plus de 3 millions de PER qui ont été ouverts, largement au-dessus de ce qu'espérait le gouvernement. En revanche, un des soucis du PER, c'est qu'on a une accumulation de frais, puisque quand vous ouvrez un PER, vous avez des frais de versement, des frais d'ouverture, des frais de gestion, en euros ou en UC, des frais d'arbitrage, éventuellement si vous passez d'un support à un autre, des frais d'arrérage une fois que le PER est clôturé à la retraite et que vous allez pouvoir prendre une rente. Donc beaucoup de frais qui s'accumulent tout au long du contrat, sachant qu'en plus c'est un contrat dit tunnel. Qu'est-ce qu'un produit tunnel ? C'est un produit quand vous l'ouvrez, vous n'avez pas possibilité de le fermer, sauf cas exceptionnel. Ça fait aussi partie des éléments très positifs sur le PER, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités de pouvoir en sortir, notamment l'achat d'une résidence principale, ce qui a fait un des succès du PER par rapport aux autres produits. Donc en revanche, une accumulation de frais, à titre d'exemple, on parlait de plusieurs frais, notamment les frais de versement, qui sont les frais que vous versez quand vous versez 100 euros, les frais de versement viennent ponctionner X%. En l'occurrence, sur le comparatif qu'on a fait sur 70 PER, on a 2,74% de frais de versement. C'est-à-dire que vous mettez 100 euros, il y a 2,74 euros qui vont aller ponctionner ces 100 euros.
À quel degré de transparence l'épargnant doit-il s'attendre ?
Bruno Le Maire a axé sur deux lois, entre guillemets. Une qui est plutôt un accord de place entre les assureurs, les banques et les Français, qui va obliger à partir du 1er juin à avoir une liste de l'ensemble des frais, que ce soit les frais de versement, les frais d'arbitrage, les frais d'arrérage, etc., et les performances du contrat, à la fois sur le fonds euro et la gestion horizon. Deuxième point, c'est, ça a été voté au journal officiel la semaine dernière, c'est l'obligation pour les unités de compte, donc pour les, ce qui ressemble à des, vous avez le fonds euro et les unités de compte qui sont des lignes accaparées un petit, avec un peu plus de risques, voilà, type actions, obligations ou autres, ou pour chacune des lignes qui seront composées dans votre PER, l'obligation pour l'assureur de décrire la performance, les frais et la rétrocommission.
Ces informations seront-elles accessibles facilement ?
Alors, normalement, ces informations doivent être disponibles sur le site internet de l'assureur, qui doit les mettre à disposition du consommateur, avec d'une part l'ensemble des frais et les performances du contrat, et puis pour chacune des unités de compte, avoir les frais, la performance nette et la rétrocommission que l'assureur, la société de gestion, versera à l'assureur par la suite.
On y découvre la rétrocession de frais. En quoi cette pratique consiste-t-elle ?
La rétrocession, c'est la commission que la société de gestion va verser à l'assureur vie, au courtier ou au CGPI. Ce qui est assez innovant. Donc, du coup, pour chacune des lignes des unités de compte que vous verrez sur votre relevé, vous verrez également le montant de la rétrocommission que reçoit le courtier, l'assureur, par rapport à la société de gestion qui gère le produit.
Cette transparence peut-elle faire baisser les frais ? Lesquels en particulier ?
Est-ce que ça fera baisser les frais ? J'en suis pas certain. En tout cas, sur les 2-3 prochaines années, je suis pas certain que les frais baisseront, puisque c'est un produit qui vient d'être lancé il y a un an. Je suis pas certain que les assureurs vont vraiment baisser leurs frais. En revanche, ils vont certainement stagner. Ils augmenteront pas, ou peu. On a un peu cette expérience qu'on avait eue il y a un peu moins de 10 ans avec les frais bancaires, où Christine Lagarde, à l'époque ministre de l'économie, avait lancé avec le CCSF de la même manière une transparence des frais bancaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, les consommateurs ont une transparence beaucoup plus forte que sur leurs frais bancaires. Et chaque année, vous recevez, en général en janvier, le détail de l'ensemble de vos frais, ce qui permet malgré tout d'avoir une petite concurrence. Et puis entre-temps, on a eu l'émergence des banques en ligne. Donc on peut espérer ou on peut imaginer que dans 2-3 ans, on a quelques assureurs en ligne aujourd'hui qui lancent le PER, qui sont plutôt minoritaires par rapport au marché traditionnel. On peut imaginer que demain, ces acteurs en ligne qui sont des petits entrants et qui ont des frais très très compétitifs viennent tirer un petit peu ces frais vers le bas.
Voilà, c'était Ludovic Erschlikowitz, fondateur de retraite.com. Il a détaillé donc les frais, les mesures aussi prises dès juin prochain pour obliger, on va dire, les assureurs à la transparence sur les différents frais prélevés au sein d'un PER. Alors justement, il parlait de ces frais. Comment ça va se passer pour vos PER en fait, que vous proposez, pour les PER que vous proposez ? Est-ce que ça va être compliqué de mettre en place cette transparence ou pas ?
Ah, pas du tout. pas du tout. Au contraire, enfin, encore une fois, vous avez compris que nous, c'était natif dans la solution qu'on a proposée avec Matelas, moins de 1%. C'est le périn le moins cher du marché. Mm-hmm. C'est pas nous qui le disons. Hein, c'est Cantalis ou autre. Donc, je crois que la moyenne des frais, ça doit être autour de 3%. Donc, nous, on va justement vers cette transparence totale. On parlait de tous les frais à la souscription, les frais d'arrérage lors des rentes, les frais sur les versements, les frais d'arbitrage, les frais de ceci, cela. Nous, le moins de 1%, c'est tout compris. Donc, voilà. Et c'est très clair pour le client au moment de la souscription. Après, on va lui afficher, comme la loi nous le demande, à partir, d'ici quelques mois, je ne sais pas si c'est 1er juin ou 1er juillet.
Il y a deux dates, je crois. C'est juin pour le contrat et juillet pour les UC.
En tout cas, la bonne date, on va lui présenter ce tableau récapitulatif.
Donc sur l'application,
des frais.
Il y aura accès.
Sur l'application, le site web, depuis n'importe quel terminal, vous verrez la grille des frais, les rétrocessions pareil. Enfin, oui, mais ça c'est... Bon, ça, c'est un peu dans la culture de Boursorama d'être hyper transparent sur tous les frais pour que le client prenne sa décision en connaissance de cause. Et encore une fois, nous, c'est le positionnement principal du produit. Donc,
D'accord. Du côté d'Alta Profit, vous pensez que c'est une bonne mesure
bien évidemment. Et Alta Profit est également un acteur sur Internet, précurseur aussi de l'assurance vie en ligne. Et depuis 20 ans, on est dans cette ligne de coûts ultra maîtrisés et de frais bas pour...
Le point commun, c'est pas de frais d'entrée sur les deux contrats dont on parle aujourd'hui.
Pas de frais d'entrée sur le PER. Pas de frais d'arbitrage. On peut passer d'un véhicule financier à un autre sans arbitrage et tout se fait bien évidemment en ligne. aussi bien la souscription que les arbitrages. Et au niveau des frais, c'est 0,65 par an sur le fonds en euros et c'est 0,84 sur les unités de compte. Donc ça reste aussi en dessous de 1%. Alors, je ne sais pas si on est le plus bas du marché,
tout
mais en tout cas...
Tout compris.
Après, oui, ça dépend si vous, dans la gamme, il y a des ETF, parce que la différence se joue beaucoup sur les frais propres au fonds.
On a effectivement dans le produit des ETF, et les ETF, c'est effectivement des véhicules qui sont de plus en plus souscrits parce qu'il n'y a pas de rétrocommission sur ce type de véhicule. Donc ça reste aussi un pair peu coûteux. Après, en ce qui concerne la transparence, je dirais que tous les acteurs Internet, depuis maintenant plusieurs années, sont rentrés dans cette transparence des frais. Quand vous souscrivez un contrat pair sur Internet, vous avez la présentation de l'ensemble des frais du contrat et vous avez la présentation.
C'est vraiment dans le détail comme demandé.
Absolument. En tout cas, aujourd'hui, sur le site Alta Profit, vous avez une page, les frais du plan épargne retraite avec les frais qui sont présentés 0%, 0,65, 0,84. Aujourd'hui, ça existe. Alors après, on va s'adapter au formalisme de l'arrêté de
loi. Oui, parce que là, ça va impliquer, vous avez, je ne sais pas combien de supports sur le contrat, il y en a plusieurs centaines, non, j'imagine. Donc c'est quand même de dévoiler les frais pour chaque support. Donc ça risque d'être une liste assez longue.
C'est la deuxième partie. Première partie qui consiste déjà à faire comprendre aux gens combien paye-t-il à la souscription du produit, donc les frais sur l'enveloppe, les frais sur l'allocation, les frais sur les unités de compte, avoir du coup des frais nets de performance, etc. Déjà ça, c'est énorme par rapport à hier. Parce que je pense que les gens ne savent pas combien ils payent.
Oui, bien sûr.
Donc, on leur dit que c'est cher, mais ils ne savent pas où sont les frais. Donc là, déjà, ce tableau récapitulatif va permettre d'être beaucoup plus lisible pour le client, d'une part, et d'autre part, de comparer, du coup. Mmh. Il va pouvoir regarder entre le P1 A et le P1 B, c'est quoi la différence sur juste ces critères-là. Mmh. Donc déjà, ça, c'est énorme, parce que ça n'existe pas aujourd'hui. À chaque fois qu'on essaye de comparer, il y a tellement de lignes de frais possibles, imaginables, que c'est bien d'avoir une nomenclature commune. Mmh. C'est un peu comme l'extrait standard des tarifs bancaires sur la banque au quotidien. Au moins là, il y a une nomenclature claire et on peut comparer banque à banque. Donc ça, ça va contribuer.
Donc finalement, Bruno Le Maire a eu raison, a pris une bonne mesure qui aura peut-être des effets.
Si le but, c'est de faire baisser les frais sur un produit qui effectivement s'investit sur très longue période, parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est un produit de retraite sur lequel on investit sur 20 ans, les frais, c'est tous les ans qu'on les paye.
Bien
donc
sûr.
Quand c'est 3% tous les ans pendant 20 ans,
à
la fin, ça commence à faire beaucoup.
Ça cumule.
Donc oui, je pense que ça va dans le bon sens.
Et puis cet arrêté, c'est à l'origine, il y a eu un accord de place, des discussions entre assureurs. Et c'est vrai qu'il y a eu, un constat. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de pairs qui sont proposés avec 3-4% de frais à l'entrée, comme évoqué ce monsieur dans le reportage. Donc quand vous faites un versement de 50 euros et qu'on vous prend 3%, enfin si on prend 3 ou 4% déjà à l'entrée, ça va pas. Donc c'est vrai que, pour moi, le premier conseil que je donne aux épargnants, c'est pas de frais d'entrée. Ça fait plusieurs années qu'il n'existe plus de frais d'entrée sur des produits d'épargne sur Internet. Et c'est ce type de produit qu'il faut privilégier. Et après, il faut regarder effectivement les frais de gestion annuels, ce qui est prélevé tous les ans, et que ces frais de gestion soient dans des normes raisonnables. Et effectivement, autour de 1%, c'est aujourd'hui... La norme
qu'il faut avoir en tête.
À mon sens, oui.
Alors, c'est devenu une norme,
Oui, c'est devenu une norme. Enfin,
grâce
c'est...
à...
Il y a ce débat aussi.
Non, mais c'est parce que les premiers contrats d'assurance vie sans frais d'entrée sont arrivés par Internet.
Oui, c'est les banques en ligne, en fait, qui ont lancé.
Mais c'est vrai qu'on participe à cette disruption sur les prix.
Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a cette disruption.
C'est les acteurs sur Internet qui ont effectivement... C'est pour ça que moi, je suis moins pessimiste que dans le reportage. Et on l'a vu sur l'assurance vie, une baisse des frais ces dernières années. Ouais. Et sur le pair, je pense que ça va aussi... limiter effectivement.
Vous pensez que ça va se faire
oui,
rapidement?
Moi, je suis parce que quand on voit aussi le succès des acteurs sur Internet et le nombre de pairs et de contrats d'assurance vie que nous ouvrons tous les ans, tous les acteurs Internet, on voit bien qu'il y a là, il y a une demande et on répond aussi à cette demande.
Alors, cette transparence va apporter peut-être un peu le débat sur la rétrocession, on en parlait en fin de reportage. Donc, c'est une pratique qui consiste à rétrocéder une partie des frais de gestion des supports à l'assureur ou au courtier. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette pratique? Parce qu'en tant qu'épargnant, on peut se dire, est-ce qu'on ne va pas essayer de me vendre les fonds où il y a le plus de rétrocession, en fait? Est-ce que c'est une pratique qu'il faut garder, en fait?
Moi, je dis toujours, chaque travail mérite salaire. S'il y a un gérant, il faut payer le gérant pour gérer. Oui. Après, il faut regarder, évidemment, qu'est-ce qu'il y a comme frais. De plus en plus, des véhicules comme les ETF, vous n'avez pas de rétro-commission. Et là, au moins, c'est clair. Et c'est vrai que les ETF, vous avez à la fois cette absence de couche de frais qu'on peut voir par ailleurs. Et puis, vous avez cette lisibilité. Alors après, c'est de l'indiciel. Donc, c'est vraiment en ultra-sensibilité à ce qui peut se passer sur les marchés. C'est jamais décorrélé. Mais là, vous avez à la fois la transparence et un minimum de frais. Après, les ETF ne peuvent pas répondre à 100% d'un besoin en termes d'allocation. Donc là, il y a des allocations et des véhicules qu'on peut mettre à l'intérieur sans pour autant avoir des frais complètement démesurés.
Et chez Boursorama, pas de rétrocession alors, puisqu'on est sur des ETF essentiellement?
Alors, on le dit de manière extrêmement transparente, les frais de gestion sur les ETF s'élèvent au maximum à 0,15%.
Mmh. Oui, donc il n'y a pas de rétrocession.
Donc partager 0,15%,
ça commence à devenir difficile.
De toute façon, ça ne sera pas beaucoup.
C'est pas grand-chose.
Donc en fait, nous, l'enveloppe, c'est 0,5%. Okay, les frais d'allocation, parce qu'il y a quelqu'un qui travaille, comme vous le dites, tout travail mérite salaire, ça a un prix. Donc ça, c'est en fonction des profils, il y a plus ou moins de travail, donc ça va aller jusqu'à 0,27. Et après, c'est du 0,15 en moyenne, ou 0,24 pour arriver au 0,99% maximum en fonction de l'âge, etc. Donc c'est extrêmement clair et lisible. Donc les rétrocessions, c'est vrai que c'est un sujet. Après, le producteur, c'est normal, il travaille, il y a des frais. Le distributeur distribue, donc normalement, il doit aussi y trouver son compte. Donc là, dans l'enveloppe Perrin, on partage dans ce 1%, il y a une partie pour l'assureur, une partie pour l'allocateur, une partie pour le distributeur. Et ça se fait de manière extrêmement transparente. Mais pour répondre à votre question sur les rétros sur frais de gestion, en l'occurrence, sur le Perrin, Matelas, Boursorama, où il n'y a que des ETF, se partager quelques points de base.
Merci à nos experts qui nous ont permis de mieux comprendre le PER, très populaire. Donc merci Stéphane Cohen, présidente d'Alta Profit. Merci Xavier Prin, directeur marketing de Boursorama. Merci Julien Bouissou pour m'avoir accompagné pendant cette émission.
Merci.
Votre dernière émission
Vais passer la main, mais ça sera Thibault Lamy qui fera encore mieux pour les prochaines émissions.
Bon, en tout cas, merci beaucoup. On retrouvera évidemment les articles dans Capital. Dans quelques instants, ça vous concerne, votre séquence préférée. Mais avant, c'est le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le coup de cœur, coup de gueule.
Et Pierre Sabatier nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Pierre.
Bonjour, ravi d'être parmi vous aujourd'hui.
Vous êtes en pleine forme?
Ah, toujours en pleine forme, malgré les difficultés du moment et le contexte. Il faut toujours garder une dose d'optimisme, même s'il faut que cet optimisme soit toujours associé à de la lucidité, notamment quand on travaille sur les marchés financiers.
Tout à fait. Et vous allez commencer par un coup de gueule.
Alors, ça tombe bien, on parlait de lucidité. Mon coup de gueule, c'est j'espère qu'il n'y a pas une malédiction française à la tête de la Banque Centrale Européenne. Pour une raison toute simple, c'est que Christine Lagarde, jusqu'à maintenant, donc la présidente de la BCE, a eu une ligne de conduite assez claire jusqu'à maintenant, à savoir une politique monétaire qui était en soutien et qui resterait en soutien, quel que soient les conditions, parce que les États européens en avaient besoin. À la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue politique, hein, parce que vous savez qu'il y a une fragilité intrinsèque à la zone euro, parce que la zone euro n'existe pas, hein, en réalité, il n'y a pas de transfert budgétaire, et qui fait que, bah, dès que vous donnez le message aux investisseurs internationaux que la Banque Centrale Européenne ne veut plus jouer en fait son rôle de soutien de la zone, eh bien vous avez des dissensions qui existent entre l'Allemagne notamment et l'Italie, c'est ce qu'on appelle les spreads de taux, les écarts de taux. En gros, dès qu'il y a hausse de taux en Europe, c'est toujours un peu plus pour la pomme des Italiens versus celle des Allemands. Et vu que c'est une économie déjà plus fragile, vous comprenez déjà que c'était un peu compliqué. Alors pourquoi je parle de malédiction française ? Parce qu'il faut revenir un peu en arrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la crise des subprimes. On
oui.
parle.
Ouais,
ah, ça fait loin, hein, je sais, notre public, et on vieillit tous, hein, ouais. c'est comme ça. Hein. Mais en 2008, en juillet 2008, le président de la Banque Centrale Européenne s'appelait Jean-Claude Trichet. Il était français. En juillet 2008, donc en plein cœur finalement de la crise des subprimes, et à la veille en plus d'une grande faillite mondiale, hein, la banque Lehman Brothers, eh bien Jean-Claude Trichet a augmenté ses taux directeurs, a continué d'augmenter ses taux directeurs, complètement à contre-temps de ce qu'il aurait fallu faire. Et en ne voyant pas la fragilité de notre économie à l'époque, eh bien il avait été à contre-sens. Et donc évidemment, il avait aggravé la situation, à la fois économique et sur les marchés financiers, donc en Europe. Et là où on est surpris, bon j'espère entre guillemets que ça va se tasser, c'est qu'au cours des derniers jours, Christine Lagarde a finalement, de manière complètement à contre-temps, changé son discours en disant « Eh bien non, en fait, on va accélérer notre politique de restriction monétaire, à savoir on va ralentir plus vite que prévu les injections en fait, de monnaie qu'on faisait jusqu'à maintenant ». Si la situation n'était pas la situation actuelle, et ça reviendra en fait derrière à mon coup de cœur, qui est un coup de cœur un peu malheureux, à savoir qu'on est dans une situation où l'Europe, on est face à un choc mondial asymétrique. L'Europe est frappée en plein cœur, hein, par une guerre, un conflit, et d'un point de vue économique, c'est l'Europe qui va trinquer. L'Europe qui va trinquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins de consommation des ménages, moins d'investissement des entreprises, donc naturellement un État ou des États qui vont devoir se mettre en face et aider les populations et l'économie européenne à rester debout. Donc naturellement du déficit public. Donc dans un moment où l'Europe doit faire face à un choc asymétrique au niveau mondial, avec des déficits publics qui sont prévisibles, le fait que la présidente de la Banque Centrale Européenne donne le message qu'elle n'est pas là pour aider en fait, les États à faire face à la situation, nous paraît être une situation très à contre-temps. Bien. Alors, la comparaison avec Jean-Claude Trichet de l'époque s'arrête là tout de même, parce que jusqu'à maintenant, elle avait fait preuve d'un très grand pragmatisme et d'une très grande lucidité. Espérons que finalement, ce pas en avant en fait, soit rapidement éliminé, parce que sinon, attention, sur les marchés européens, ça pourrait secouer. Parce que dans une situation où les déficits publics vont forcément se creuser, forcément, si vous donnez le message aux investisseurs internationaux que la Banque centrale n'aidera pas à faire face à la situation, c'est l'épargne des ménages, c'est l'épargne privée qui viendra financer ces déficits publics et ça sera au détriment de tous les marchés d'actifs autres, immobiliers, actions, etc. Mmh. Donc, véritablement, là, le coup de gueule, il est contre Christine Lagarde en espérant qu'il n'y ait pas de malédiction française à la tête de la Banque centrale européenne.
Elle aurait dû laisser tomber cette cible d'inflation, puisque cette décision est basée sur le mandat de la BCE, c'est-à-dire qu'il y a de l'inflation très forte.
Évidemment,
on y va,
périmètre constant, on peut comprendre, mais l'inflation forte est déjà récessionniste. Je vous pose je vous fais un petit parallèle évident. C'est-à-dire, quand vous avez l'augmentation des prix du gasoil, eh bien, est-ce que vous croyez qu'en augmentant, en rendant les conditions d'accès au crédit plus difficiles pour les ménages, ça va faciliter, en fait, l'inflation, elle est importée. Mmh. Et encore plus aujourd'hui. Si on était dans la situation du mois de janvier, on pourrait discuter. Mais nous ne sommes,
nous ne sommes plus
au mois de janvier. Un conflit, il faut être réaliste, hein, un conflit, il n'est pas à notre porte, il est chez nous. Hein, il est chez nous. Et aujourd'hui, l'Europe est en grande difficulté à cause de cela. Et donc, on aura forcément deux pas en avant, un pas en arrière, des moments d'optimisme. Mais pour le coup, c'est une situation compliquée parce que là, on est en fait face à un choc d'économie réelle. Mmh. On n'est pas sur un choc d'investisseurs entre investisseurs qui se regardent de nombril et qui discutent et s'amusent finalement à se faire peur ou à faire preuve d'enthousiasme. Là, on est vraiment face à un choc réel et qui nécessite la mobilisation de la Banque Centrale Européenne au même titre qu'elle était mobilisée dans le cadre de la crise sanitaire.
Merci Pierre Sabatier pour ce coup de gueule. Le message est passé. Le coup de cœur, malheureux,
plus court.
Mais... Non, c'est très bien.
Non, le coup de cœur, déjà, il est pour tous ces actifs que, finalement, beaucoup d'investisseurs voyaient avec un peu de dédain. Et ces actifs qui ne rapportent pas grand-chose. Mm-hmm. Dans la gestion de patrimoine, finalement, c'est toujours intéressant de revenir à la genèse, à l'essence, en fait, de ce métier. C'est quoi la gestion de patrimoine ? C'est pas toujours gagner plus. C'est aussi ne pas perdre. Et donc, c'est toujours répondre à cette double exigence complexe qui est celle de la préservation optimale du capital accumulé. L'investisseur professionnel, son métier, c'est savoir quand est-ce qu'il est temps d'aller chercher l'optimal ou quand est-ce qu'il est temps d'aller chercher la préservation. Et donc, évidemment, vous avez compris que la prime de risque, le risque actuel, donc, fait que, il était temps, en tout cas, les professionnels de l'investissement, pour ceux qui l'ont été, ont été clairvoyants de comprendre qu'il était temps non d'aller chercher l'optimal, donc plus la performance à court terme, mais plutôt la préservation. Hein, je donne souvent cet exemple-là. Vous savez, le nombre de riches sur Terre, s'il fallait les compter, est extraordinaire. Mais le nombre de gens qui sont restés riches est beaucoup moins nombreux. Mmh. Parce que le vrai sujet, préservation optimale, c'est pas gagner, c'est aussi en fait ne pas perdre lorsque les conditions deviennent adverses. Et donc, mon coup de cœur, il est pour tous ces actifs décriés. L'or, par exemple, hein, les métaux précieux, qui ont joué finalement leur rôle de protection, qui, en dépit du fait que les marchés actions ont baissé d'une dizaine de pourcents, voire même d'une vingtaine de pourcents en Europe, eux, bah, ont progressé. Donc, dans un contexte comme celui-ci, progresser, c'est quand même splendide. Voire même les obligations d'État. Même si les taux ont un petit peu bougé, un petit peu monté au regard de la prise de parole malheureuse, selon nous, de Christine Lagarde, les obligations souveraines ont joué leur rôle de protection. Et donc, mon coup de cœur, il va, donc mon premier coup de cœur, il va à tous ces actifs qui ont l'impression de. On a toujours l'impression qu'ils servent à rien, qu'ils sont inutiles, mais dans des moments, en fait, de stress importants, hein, les armes ne montent pas jusqu'au ciel, et bien, ils jouent un rôle essentiel dans la préservation du capital lorsque le temps. Est à celle de la préservation plus que celle de la génération de performance.
Merci infiniment, Pierre Sabatier, d'être venu sur ce plateau.
Avec grand plaisir.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
C'est le moment de la séquence que vous adorez, ça vous concerne. Des experts qui répondent à vos questions et pour m'accompagner, Thibault Lamy, rédacteur placement chez Capital. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va bien, et vous ?
Très bien. Alors, on accueille tout de suite notre premier expert qui est en plateau, Maître Nathalie Cousigou-Suas, notaire à Paris. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour. Alors, une première question de Chloé.
Oui, tout à fait. Chloé qui a une question qui parce qu'elle aimerait faire une donation à sa nièce, une donation d'un montant de 15 000 euros. Elle croit savoir qu'il est possible de payer elle-même ces fameux droits de mutation à la place de sa nièce, et elle souhaiterait savoir comment faire, et puis bah, évidemment si elle peut limiter le coût de l'opération, c'est encore mieux.
Ben, c'est une très gentille tata que tata Chloé. Donc elle peut donner 15 000 euros à sa nièce, mais même sans droit de mutation. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà si Chloé n'a pas d'enfant, eh ben, elle peut donner jusqu'à ses 80 ans 31 865 euros complètement défiscalisés à sa nièce, et si, dans tous les cas, elle peut donner en plus 7 967 euros, c'est précis. Donc, moralité, dans la donation que va faire Chloé à sa nièce, il n'y aura vraisemblablement pas de droit de mutation à quitter. Il n'en reste pas moins que la nièce de Chloé doit le déclarer aux impôts. C'est le formulaire 7FA 2735 qu'on télécharge sur le site des impôts. Il faut qu'elle le déclare dans le mois de la réception du don. Donc ça, c'est très important. Mais il n'y aura pas de fiscalité attachée à ce don. En revanche, si le don était supérieur à ce montant, il y aurait effectivement des droits de mutation à payer qui, entre neveux et tantes, sont extrêmement importants. Et dans ce cas-là, la personne qui donne, c'est-à-dire le donateur ou la donatrice, c'est-à-dire ici Chloé, pourrait supporter le coût des frais, et pour le fisc, ce n'est pas considéré comme une nouvelle donation. Moralité, s'il y a un coût fiscal, la tante peut le supporter, le fisc considère que ce n'est pas un surcroît de donation consistant en paiement ses frais.
Comment concrètement ça se passe si on veut, entre guillemets, avancer ces droits de donation
pour... si c'est un don manuel simplement déclaré auprès de l'administration fiscale, eh bien, avec le formulaire CERFA, la personne va payer les droits à la recette des impôts par virement. Voilà. C'est les impôts souvent qui calculent. Vous pouvez le faire aussi parce que on peut le faire aussi parce que c'est assez bien expliqué. Sinon, vous pouvez toujours appeler votre notaire pour qu'il vous explique ou aller vous rendre directement au centre des impôts. Alors, il y a une petite précision. Chloé, là, elle veut avantager sa nièce. J'imagine qu'elle a des frères et sœurs, Chloé. Donc, si elle ne fait pas de testament et que Chloé n'a pas d'enfant, à son décès, le reste de ses biens va revenir à ses frères et sœurs. Si, en revanche, les héritiers de Chloé étaient que ses neveux, il faudrait qu'elle prévoie par testament pour savoir si ce don qu'elle a fait à Chloé en avance, ça viendra en déduction de sa part future ou si elle a voulu l'avantager en plus de ses autres neveux et nièces. C'est ce qu'on appelle le rapport à la succession. Donc ça, ce n'est pas l'aspect fiscal, mais l'aspect civil qui est une autre histoire.
D'accord, donc ça, c'est au sein du testament, par exemple.
Exactement, par exemple.
Merci Maître Nathalie Cousigou-Suas, notaire à Paris. Tout de suite, un deuxième expert.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
On accueille tout de suite notre deuxième expert, Charlotte Tamer. Bonjour.
Bonjour.
Directrice conseil chez Yomoni. Et puis Thibault a une question pour vous, c'est un certain Brice.
Tout à fait, un Brice qui veut ouvrir un LEP, donc un livret d'épargne populaire. Lui, il est client d'une banque en ligne, malheureusement, comme beaucoup de banques en ligne, sa banque en ligne ne propose pas ce produit. Il se demande s'il peut ouvrir le LEP auprès d'un autre établissement sans avoir à y loger à créer un compte courant et à y loger ses revenus mensuels. C'est sa question.
Ok, alors pour répondre à Brice et peut-être aux gens qui nous écoutent de manière générale, donc le livret d'épargne populaire est un livret qui rapporte plus que le livret A, donc c'est un livret réglementé qui distribue une rémunération en 2022 de 2,2% net de fiscalité, donc c'est quand même assez important par rapport au contexte qu'on connaît aujourd'hui, et c'est un livret réglementé, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas l'ouvrir, il faut répondre à des conditions pour l'ouvrir, qui sont des conditions à la fois de foyer fiscal, nombre de parts fiscales dans le foyer, un certain type de revenus en fonction de l'endroit où vous habitez. Donc pour y voir un petit peu plus clair, c'est-à-dire que vos revenus doivent être capés et on va considérer vos revenus par rapport au nombre de parts qu'il y a dans votre foyer fiscal. Pour trouver ces informations, vous pouvez aller sur le site de la Banque de France, vous pouvez aller sur le site, sur les sites général internet, vous trouverez les informations nécessaires pour voir si vous êtes éligible au LEP. Donc si Brice, demain, effectivement, ces livrets d'épargne populaire, on ne les trouve pas dans les banques en ligne, on les trouve dans ce qu'on appelle les banques en dur, c'est-à-dire les banques traditionnelles qui ont pignon sur rue. Et effectivement, Brice demain peut aller dans n'importe quelle banque s'il remplit les conditions de revenus, s'il ne dépasse pas un certain niveau de revenus par rapport à la composition de sa famille en fonction de là où il réside. Il va pouvoir aller dans n'importe quelle banque, demander l'ouverture d'un livret d'épargne populaire et peut-être fournir quand même son avis d'imposition N-2 pour pouvoir répondre aux conditions qui lui sont imposées et obtenir l'ouverture de ce livret-là. La banque va peut-être lui proposer d'ouvrir un compte courant ou de domicilier ses revenus, mais en aucun cas c'est une obligation pour Brice. Attention, la banque parfois profite de la volonté du client, ça s'est vu sur les emprunts immobiliers, ça s'est vu sur les plans d'épargne logement, mais en fait il n'y a aucune obligation légale de la part de l'investisseur, donc de la personne qui est en train d'ouvrir de son LEP, d'ouvrir un compte courant et d'y domicilier ses revenus. D'ailleurs à ce propos, sur l'ouverture du compte courant, une banque bien établie en France dont on ne citera pas le nom, envoyait des recommandés à ses clients qui avaient des plans d'épargne logement, en leur indiquant des plans d'épargne logement sec, hein, qui n'avaient rien d'autre dans la banque, en leur disant que si elle n'ouvrait pas un compte courant, il est menacé en fait de clôturer le plan d'épargne logement, et donc c'est UFC Que Choisir qui est intervenu, et donc ils ont gagné leur recours contre la banque, ce qui montre bien qu'il n'y a pas d'obligation d'ouvrir un compte courant pour détenir un livret réglementé dans une banque. Et la deuxième chose, c'est quand les gens empruntent, généralement la banque demande la domiciliation des revenus. Il y avait même auparavant dans les contrats d'emprunt, des clauses de domiciliation de revenus. Et en fait, ce type de clauses ont été interdites par la loi Pacte de 2019. Donc, c'est plus de l'extension sur l'emprunt habitation et sur le plan d'épargne logement, mais à considérer que ça se rapporte aussi, que ça s'apporte aussi au livret en cause.
D'accord, donc à part la contrainte de revenus, aucune contrainte.
Non, aucune contrainte. Après, on peut dire à Brice qu'effectivement, s'il veut alimenter ce contrat-là, c'est toujours plus simple d'ouvrir concomitamment un compte courant à côté de ce livret-là, sur lequel il va pouvoir faire des versements automatiques. Mais c'est une notion de praticité. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans.
Donc plus simple, mais pas obligatoire d'avoir
exactement.
Un compte courant. Merci beaucoup, Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yonomi.
Merci.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Et on accueille notre troisième expert, Stéphane Absolu. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Directeur associé chez Pixie Conseil. Thibault a une question aussi pour vous, une question de Sarah.
Oui, alors Sarah, c'est une lectrice qui vit en concubinage. Elle voudrait savoir ce qu'elle peut faire pour protéger son conjoint si elle venait à décéder, s'il y a des stratégies qu'elle peut mettre en place pour assurer la suite.
Et pour assurer la suite, alors Sarah a bien raison de se poser la question, puisque les concubins et les relations entre concubins sont aujourd'hui régies par aucun texte de loi. Leur statut légal, en fait, ne leur donne aucune protection. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas ni d'obligation ni de droit attaché à la relation entre concubins. Donc les conséquences sont plutôt effectivement négatives en cas de décès. Il faut savoir qu'il n'y a par exemple pas de pension de réversion qui sont données à un concubin. Il n'y a pas de protection dans le cadre d'un droit viager à un logement. Voilà, il n'y a pas de statut légal donné au concubin survivant. Il n'est pas héritier. Donc il se positionne comme un tiers dans la succession, hein, donc le partenaire de, enfin le concubin de Sarah se retrouverait comme un tiers, donc sans testament, avec rien du tout, et même avec un testament qui lui donnerait une partie de son patrimoine, avec une fiscalité à 60% qui est du coup confiscatoire. Alors, pour remédier un peu à cette absence de statut, ça a raison de réfléchir à des stratégies, puisqu'il n'y a que l'anticipation qui permettra de donner un cadre protecteur à son concubin. En termes d'outils, bien évidemment, il y a des outils assurantiels qui sont très efficaces. Alors, l'assurance décès en premier lieu, hein, je souscris une assurance décès, je verse une prime, et je prévois qu'un capital décès sera versé à mon concubin en le mettant bénéficiaire de ce contrat d'assurance décès. L'assurance vie, hein, qui est un placement financier, là, cette fois, il faut bien distinguer les deux. L'assurance vie, en mettant une clause bénéficiaire au bénéfice de ce concubin. L'avantage, c'est qu'on rentre dans la fiscalité dérogatoire de l'assurance vie. Hein, je rappelle que l'assurance vie est hors succession. Donc, pallié d'une part par les règles de la réserve héréditaire, et puis ensuite avec une fiscalité dérogatoire, un abattement de 152 500, et une fiscalité à 20 ou 31-25% des capitaux décès. On est bien loin des 60%. Que j'évoquais tout à l'heure, donc on est quand même dans un cadre beaucoup plus protecteur. Et puis il y a une dernière stratégie un petit peu plus complexe qui vise là à protéger, je dirais, la résidence principale du couple. Hein, et l'idée, c'est de constituer une société civile. Hein, on parle de stratégie de démembrement croisé de parts de société civile immobilière. Donc là, dans ce mécanisme et cette stratégie-là, il convient de mettre sa résidence principale dans une société civile. Alors, soit de créer la société civile à l'origine, soit d'apporter sa résidence principale dans la société civile. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger l'usufruit des parts sociales. Donc dans le schéma, Sarah est associée à 50%, son concubin associé à 50%, et ils vont échanger leurs droits d'usufruit. Donc Sarah va devenir usufruitière des parts de son concubin, et son concubin va devenir usufruitier des parts de Sarah. Cet échange d'usufruit, en fait, va permettre une protection notamment au décès. Imaginons que Sarah décède. En fait, son concubin va redevenir plein propriétaire de ses parts, puisque l'usufruit de Sarah va donc s'éteindre. Et il va, lui, en revanche, conserver un usufruit qui va, du coup, lui permettre d'avoir la pleine propriété des 50% de parts, qui sont les siennes à l'origine, et de conserver un usufruit. L'avantage dans ce schéma-là, c'est que non seulement on est dans une société civile, donc on a des statuts qui vont permettre, notamment s'il y a des enfants, de pouvoir assurer la gestion simple pour le concubin qui reste survivant. Et puis, on obtient du coup, de facto, par ce mécanisme-là, la possibilité de jouir pleinement de la résidence principale, sans avoir de compte à rendre aux enfants, sans être dans une indivision avec les enfants. On est juste dans le cadre d'un démembrement de propriété. Et puis, on est passé au travers de la fiscalité confiscatoire des 60%, puisque le coût de cet échange croisé, c'est uniquement des droits d'enregistrement à hauteur de 5% de la valeur de cet usufruit échangé. Donc on est du coup sur une fiscalité qui est quand même nettement plus allégée et une protection efficace pour le concubin.
Donc, notamment, par exemple, s'il y a eu des enfants d'une première union.
Alors encore autre. Plus s'il y a des enfants d'une première union. Quand bien même il y aurait des enfants d'une même union, il faut savoir que sans testament, ce sont ces enfants qui héritent et le concubin n'hérite de rien. Donc les enfants se retrouvent plein propriétaires, sans rien, de la moitié de la résidence principale et puis le concubin de l'autre moitié. Donc là, on est dans une situation d'indivision avec les enfants. Sur une résidence principale, c'est pas forcément très très confortable. Donc c'est vrai que cet échange croisé de part de SCI est une bonne stratégie en termes de protection. Alors après, évidemment, il y a toutes les protections qui vont venir avec le changement, quelque part, dans les relations entre partenaires. On peut passer dans le cadre d'un pacte, on peut passer dans le cadre d'un mariage, et là, bien évidemment, le degré de protection va augmenter en fonction de la forme d'union que pourrait choisir Sarah et son partenaire.
Merci Stéphane Absolu. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il faut protéger les conjoints.
Exactement.
Il faut le faire.
Alors,
c'est important.
Je dis souvent, il faut les protéger. Il ne faut pas non plus les surprotéger. Il y a toujours un bon degré à donner.
Après, ça dépend de la relation aussi.
Mais... Et puis, il faut se poser la question, en tout cas, vous avez raison.
Mais oui, c'est sûr. Merci en tout cas, Stéphane Absolu, directeur associé chez Pixi Conseil. Merci infiniment, Thibaut Lamy.
Merci
pour être venu sur le plateau. Merci également à Julien Wissou pour avoir préparé cette émission. Dernière émission, puisque c'est vous qui reprenez le flambeau, j'ai envie de dire, Thibault Lamy, pour la prochaine, le mois prochain.
Oui, tout à fait.
Pour dernière émission pour Julien. Merci à nos experts qui sont venus. Merci aussi à nos réalisateurs, Baptiste Plouchard et Nicolas Sanda-Nassami. Et puis, cette émission se termine. On se retrouve le mois prochain pour un prochain grand rendez-vous de l'épargne.
Retrouvez le grand rendez-vous de l'épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur capital.fr.